Qu'est-ce qui fait la qualité d'un cadre de vie aujourd'hui ? C'est la question que le jury interdisciplinaire du prix SIA 2026 s'est posée face à 183 projets soumis de toute la Suisse. Le prix SIA, c'est la distinction suisse pour des réalisations au service d'un cadre de vie durable, porté par la Société suisse des ingénieurs et architectes. Et pour juger les projets de cette deuxième édition, le jury s'est appuyé sur les 8 critères du système Davos de qualité pour la culture du bâti. Dans ce talk, 3 projets shortlistés et les raisons pour lesquelles ils ont retenu l'attention du jury. Avec moi, Ariane Widmer, architecte et urbaniste, l'architecte Anne-Chantal Ruffer et Malena Bastien-Mass, ingénieur civil, toutes les 3 membres du jury. Je suis Cédric Van Der Poel, co-directeur du Digital Lab d'Espatium, les éditions pour la culture du bâti. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième talk du prix SIA 2026, la distinction suisse pour des réalisations au service d'un cadre de vie durable. Pour cette deuxième édition, le jury s'est réuni début février pour sélectionner une shortlist de 6 projets avec comme critère de jugement les 8 critères du système Davos de qualité pour la culture du bâti. Je les rappelle, la gouvernance, la fonctionnalité, l'environnement, l'économie, la diversité, le contexte, l'esprit du lieu et la beauté. On a 3 projets très différents, 3 contextes, 3 échelles, mais une même et seule question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la qualité en matière de culture du bâti ? À travers ces projets, il me semble qu'on n'est pas en train seulement d'évaluer des projets, mais aussi des attitudes. C'est-à-dire comment on transforme, comment on protège, comment on répare et comment on habite, ou comment on veut habiter. Et pour sauter dans le vif du sujet, je donne la parole à Ariane Widmer pour la présentation du premier projet qui va nous intéresser aujourd'hui, qui se nomme Gesli 5 dans le canton de Saint-Gall.
Ce projet-là nous amène effectivement dans le nord-est de la Suisse, dans le village de Graps. C'est un projet qui, première vue, est petit, assez simple, mais qui finalement, si on l'analyse de plus près, on se rend bien compte, la complexité des questions auxquelles finalement il va chercher et trouver des réponses. Donc il s'agit d'un projet qui est un projet collectif porté par plusieurs habitants du village de Graps qui ont, pour un franc symbolique, pu acheter un bâtiment de plus de 300 ans. Donc c'est ce groupe de propriétaires qui s'est finalement intéressé à acheter un bâtiment pour le démonter, le remonter ailleurs de manière plus centrée dans le village et surtout aussi, de compléter ce bâtiment qui consiste en un seul volume au départ pour y adjoindre une annexe qui, elle, allait avoir une vocation publique. Donc finalement, dans cet ensemble qui est constitué par démontage et remontage et adjonction, dans cet nouvel ensemble, on va trouver un logement, on va trouver des locaux communs qui servent aux habitants de la commune. Dans ce processus qui nous a intéressés en particulier, c'est évidemment le résultat. Oui, on peut dire très beau, il a une sorte de simplicité par les matériaux qu'il utilise. Donc il y a ce réemploi de madriers, d'anciennes poutres et poteaux qui constituaient le bâtiment ancien. Mais il y a aussi les nouveaux matériaux qui ont été ajoutés. Donc on va trouver du pisé, on va trouver du crépi de chaux. Et c'est, cette nouvelle composition à partir de l'ancien a effectivement cet avantage d'une part de parler du passé de ce lieu, de ce village de Graps, au travers de ce bâtiment qui a une valeur patrimoniale absolument, mais qui en même temps recompose un lieu et donne une fonction et une vocation à un endroit qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Peut-être dans cette composition qui part d'un principe d'économie, donc le projet cherche à économiser les ressources, on est clairement dans un projet de réutilisation, de reuse. Ce projet a effectivement une sorte de justesse, par rapport au lieu dans lequel il est. Je pense qu'un point qui nous a fascinés dans ce projet, c'est effectivement sa simplicité ou l'économie des moyens en fait, avec lesquels il se constitue. C'est un projet aussi qui est une beauté innovante, en dehors des standards habituels, des espaces d'une hauteur particulière dans l'annexe, un logement qui est composé avec des éléments de l'ancien, mais aussi avec du nouveau. Et donc c'est clairement, le résultat nous a intéressés, Mais au-delà de ce résultat, c'est clairement aussi ce processus, l'idée d'un collectif qui se réunit pour porter un projet, pour faire un projet qui va servir aussi la communauté.
Moi, j'ai une question. Comme tu l'as montré, ce projet est admirable à bien des égards. Une déconstruction minutieuse, un remontage, un choix des matériaux, une logique circulaire. Mais il reste relativement confidentiel, je trouve, et presque fragile dans son modèle économique et social. Et ma question, est-ce que Gesli Fünf est reproductible ou alors une exception rendue possible par une constellation très particulière de personnes engagées et d'un territoire peut-être engagé? Les questions, pendant les débats du jury, il y avait cette question de l'exemplarité, de la reproductibilité des projets que vous vouliez mettre au devant de la scène. Et sur ce projet en particulier, je me pose cette question.
J'ai peut-être une partie de réponse pour commencer, en fait. Effectivement, je pense que ce projet profite d'une constellation de choses qui lui ont permis de mettre en œuvre le projet, le déplacement d'un bâtiment historique et la construction d'un ajout en matériaux, principalement en matériaux bio et géosourcés. Mais il permet aussi de démontrer la faisabilité d'une série de techniques qu'on espère voir plus souvent mise en avant aujourd'hui. Donc, c'est intéressant parce qu'il fait à la fois ce qu'on appelle du adaptative reuse, parce qu'il réutilise une structure historique d'une autre manière, mais il fait en même temps du réemploi d'éléments au sens propre, parce qu'il a dû déplacer le bâtiment à un autre endroit. Donc, déjà là, il a dû franchir toute une série de défis liés à ces deux processus-là. Et puis en plus, il montre comment c'est possible de construire avec ces matériaux qu'on a un peu oubliés. Qu'on recommence à utiliser gentiment, qui sont les matériaux biosourcés et géosourcés. Et juste en permettant de donner cet exemple, il a permis en tout cas à toute une série de personnes d'acquérir de l'expérience qu'ils vont pouvoir ensuite appliquer ailleurs.
C'est vrai qu'au-delà de cette question de la simplicité de la construction, disons vers laquelle je crois qu'on devrait réussir à tendre, il y a aussi l'attitude. Et je crois que l'attitude, elle est vraiment transposable dans d'autres contextes, notamment dans des contextes périurbains. Donc l'attitude derrière l'attitude, c'est quoi? C'est effectivement un engagement collectif, c'est faire avec de l'existant qui a aussi une valeur identitaire. Et ça, je crois qu'au-delà de l'échelle des projets, ou de cette petite échelle ici, cette attitude-là, elle est réellement transposable dans d'autres contextes, plus urbain, peut-être plus chaotique.
Peut-être juste pour revenir sur la question de l'organisation, comment c'est né un peu cette étincelle au début où le projet prend son départ. Je trouve que quand même, c'était pas le seul des projets qui avait un début collectif comme ça, ou peut-être d'une ou deux personnes engagées qui arrivent à motiver. Et je pense aussi à fédérer aussi dans un village comme celui-ci. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est reproductible ou qui au moins peut peut-être donner de l'espoir à d'autres initiatives de ce type. Et je trouve ça assez beau de voir que, le cas concret, c'est vraiment ces deux jeunes étudiants en architecture qui étudiaient le projet, qui ont réussi à motiver différentes personnes du village. Et je trouve que ça, on le voit apparaître quand même à beaucoup d'endroits. Et je pense qu'à la fin, la culture du bâti de qualité tient évidemment à de grandes, très grandes organisations, les gens qui portent les projets, les gens qui décident. Mais ça peut aussi naître d'initiatives très personnelles, très ancrées localement dans ces villages.
On va passer au deuxième projet, qui est une forêt urbaine dans le quartier de L'Étang, dans le canton de Genève. Et je donne la parole à Anne Chantal.
Nous nous trouvons ici donc dans un parc à Vernier qui a été réaménagé pour accueillir la population grandissante du quartier. Je pense que c'est important d'insister justement sur ce contexte qui est sous une pression extrêmement forte. On est dans un territoire qui est en train d'être énormément densifié. On n'est pas loin de l'aéroport de Genève non plus, donc vraiment un endroit où il se passe beaucoup de choses et où on trouve tout d'un coup ce parc qui est un peu une parenthèse dans ce contexte. Et comme souvent dans ce type de projet, il a fallu résoudre ou répondre à des questions qui peuvent sembler contradictoires, c'est-à-dire qu'il faut d'une part accueillir de plus en plus de personnes, diversifier les usages, les rendre plus inclusifs. Et en même temps, on cherche à renforcer l'infrastructure verte et bleue à plus grande échelle, donc inclure des questions de biodiversité, améliorer le climat urbain, répondre à des questions de gestion de l'eau, etc. Et pour moi, donc, le premier geste de ce projet, ça a vraiment été de maintenir ce petit bout de forêt qu'il y avait à cet endroit, à côté d'un quartier qui a été entièrement renouvelé, et de préserver le caractère de ce lieu. Le projet qu'on a sous les yeux, il intervient vraiment de manière assez ciblée et ponctuelle. Il arrive à préserver justement le cordon boisé. Et ces arbres, ces plantations sont renforcées. On voit aussi qu'il y a toute une structure d'arbustes qui est ajoutée, qui aide à structurer les différents espaces du parc. Et on a finalement un endroit vraiment de ressources pour les personnes de ce quartier qui propose toute une série d'ambiances, de forêts différentes, d'usages différents. Et on passe d'une ambiance à une autre. On arrive du quartier très dense à la lisière de la forêt. Ensuite, on a vraiment une cohabitation de différents endroits où en même temps, on a des espaces de retrait, contemplation, où on peut se retrouver au calme. Et juste à côté, des petites placettes, on peut se retrouver, d'autres espaces, un peu de clairière, on peut jouer voilà, avec des jeux libres, des usages diversifiés. Et tout ça cohabite ensemble, côte à côte. Au milieu de tout ça, il y avait un étang existant qui était artificiel. Donc ça, c'est un peu un des grands enjeux du projet, c'était d'avoir une intervention assez profonde, puisque cet étang a été complètement renouvelé, pour le remplacer avec un plan d'eau naturel qui augmente vraiment la qualité, disons, environnementale de ce lieu. Et cet étang, il est autant infrastructure hydraulique, puisque c'est un bassin de rétention des eaux de pluie. C'est aussi un réservoir de biodiversité. Et ensuite, voilà, comme je disais, un espace de contemplation et de jeu. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que finalement, sur les berges de cet étang, on a toute une multitude de rapports à l'eau qui sont possibles pour les gens qui fréquentent ce parc. On a vraiment en majorité un rapport plutôt visuel, avec des barrières, on a des balcons qui donnent sur cet étang. Mais on aménage quand même sur une partie, sur un côté, une petite plage qui invite à se rapprocher de l'eau, à établir, je dirais, un rapport beaucoup plus ludique, où on a le droit d'aller toucher l'eau. Un escalier qui permet de s'approcher aussi de manière, disons, sécurisée peut-être pour des enfants, pour plutôt aller jouer avec l'eau et offrir aussi cette qualité-là à cet endroit. Oui, je pense qu'on a vraiment ici un espace de vie très, très précieux pour ce quartier qui vit au fur et à mesure des saisons et des envies et des besoins des habitantes et habitants du quartier, à un endroit où finalement, je dirais presque chaque mètre carré est compté. On retrouve vraiment l'importance d'avoir des espaces publics aussi de qualité pour toutes et tous dans ce type de quartier.
Tu viens de dire l'importance de l'espace public dans la culture du bâti. J'aimerais revenir sur ce point parce que sur les 183 projets, il n'y a pas beaucoup de projets d'espace public. Et ma question est la suivante, c'est comment faire comprendre que l'espace public, une pièce fondamentale de la qualité du cadre de vie, et puis comment faire apparaître cette inversion, si vous voulez, de la hiérarchie habituelle entre urbanisation et paysage.
Pour commencer, je pense que ce n'est pas imaginable de concevoir qu'il y a une différence ou une hiérarchie entre urbanisation et paysage. Disons, l'urbanisation, première attente qu'on a d'une urbanisation, c'est qu'elle comprenne le lieu et donc le territoire et donc le site et donc le paysage dans lequel elle s'insère. Dans ce sens-là, je dirais que ce projet est tellement, puissant en même temps parce qu'il est tellement petit par rapport à l'échelle de ce qui l'environne. Il est tellement petit et en même temps, on voit bien ce qu'il apporte à un endroit comme celui-ci. Et dans ce sens-là, révéler le paysage dans des territoires urbanisés ou mal urbanisés ou des territoires très infrastructurels, on voit bien combien ça peut amener des qualités qui peuvent être petites en surface, des lieux petits en surface, mais des lieux qui ont une capacité de rayonnement et qui ont une importance très forte pour les gens qui habitent dans ces lieux, dans ces quartiers.
Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il permet aussi de répondre à un besoin plus technique qui est le bassin de rétention, en fait. Parce qu'on sait que les risques de crues par ruissellement dans nos espaces urbanisés, c'est des risques qui augmentent de plus en plus aussi avec les changements climatiques. Et donc, d'avoir su combiner cet espace de vie pour le quartier en répondant à un besoin technique qui est assez urgent au sein des espaces très urbanisés, ben c'est assez génial en fait. Et puis ça, ce projet y répond très bien. Ça démontre aussi une interdisciplinarité. On a l'impression à prime abord que c'est surtout un projet d'architecte du paysage, mais en fait pas du tout. C'est un projet aussi interdisciplinaire avec des ingénieurs en hydraulique qui ont contribué au dimensionnement du bassin de rétention et de ce qui est devenu l'étang en fait, ou le petit lac.
Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement ce projet-là, finalement, qui réussit d'aller au-delà de la fonctionnalité, disons, de la technicité. Et la clé, je pense, que dans la transformation urbaine ou paysagère, c'est d'arrêter de penser purement fonctionnel, purement technique, pour comprendre, en fait, qu'est-ce que chacun de ces projets peut apporter en termes de qualité aussi à son environnement.
Et maintenant, je vous propose de passer au dernier projet, qui est le projet de Bondo, et je donne la parole à Malena Bastiamas.
Alors, le projet de réaménagement des ouvrages de protection de Bondo, en août 2017, un éboulement depuis le massif du Piz Cengalo a provoqué une coulée de boue dans la Bondarska, jusque dans le Val Bregaglia, aux portes du village de Bondo. Le lit de la Mera, au fond du Val, a été recouvert et les routes cantonales ont été coupées et ensuite la vallée a été coupée du monde. Il y a aussi un pont qui a été détruit qui reliait les deux côtés du vallon. Après l'événement, il a donc fallu reconstruire les ouvrages de protection à la fois pour la Bondarska et pour la Mera. Et il fallait aussi repenser et reconstruire les infrastructures de transport, donc les routes et les ponts qui avaient été endommagés ou démolis, en tenant compte évidemment du risque accru de crues et de coulées de boue. Les nouveaux ouvrages de protection qui ont été construits comprennent donc des nouvelles digues qui sont surélevées par rapport à celles qui existaient avant et aussi un agrandissement du bassin de rétention pour les sédiments de la rivière Bondarska. La route cantonale a aussi été reconstruite et rehaussée et trois nouveaux ponts ont été construits, dont le pont très majestueux qui relie Bondo et Promontonio, qui a une portée de 50 mètres et qui a une forme courbe. Ça a aussi été l'occasion de revoir la mobilité, de mieux organiser la circulation et les flux sur cette route cantonale en séparant les voies pour le transport public, la mobilité douce et le transport individuel. C'est vraiment un projet d'infrastructure qui révèle tout l'art de l'ingénieur et puis la combinaison des disciplines que sont l'hydraulique et la structure. Les ponts sont particulièrement réussis, c'est des ponts cadres qui ont une finesse vraiment très très spectaculaire. Le fait que ce soit des ponts cadres fait qu'on n'a aucun joint, ce qui garantit aussi une très grande durabilité pour ces ouvrages. Et puis du coup, cette élégance en fait et cette finesse, elle n'est pas seulement un outil d'esthétique, mais elle permet aussi de respecter le gabarit hydraulique des rivières qui passent sous ces ponts. Les trois ponts ont aussi des parapets en béton qui permettent de faire la protection contre les chutes quand on est sur le pont, mais aussi contribuent aussi à la rigidité, au comportement structurel de l'ouvrage. Donc ce n'est pas qu'un poids ajouté comme ça peut arriver parfois, mais c'est vraiment une partie intégrante de l'ouvrage. Donc on a vraiment travaillé la forme de ces ouvrages pour les rendre le plus fonctionnels possible. Mais au-delà de ce travail de l'ingénieur, c'est aussi un projet qui a aussi une interdisciplinarité, parce que l'équipe de projet a été choisie à l'issue d'un concours de projet, et puis elle est composée, en plus des ingénieurs, d'architectes du paysage et d'architectes. Après le concours, la collaboration aussi avec les autorités locales a été constante et il y a eu des présentations publiques et des échanges avec les organisations environnementales, ce qui a permis que le projet soit accepté avec nette majorité lors des référendums. Tout le projet a été développé avec un souci d'intégrer les nouveaux ouvrages dans le paysage, avec les particularités du Val Bregaglia, avec ses flancs qui sont en terrasse et ses nombreux ponts aussi en arc. En plus des nouvelles infrastructures, le projet a permis de développer des nouveaux espaces de vie pour la population. Donc il y a une nouvelle promenade sur la digue, une place polyvalente et aussi des jardins en terrasse pour les habitants. Le choix des matériaux aussi n'est pas anodin et permet de respecter le paysage et d'avoir un lien avec le paysage et d'utiliser les ressources disponibles localement. En particulier, ils ont récupéré les pierres issues de la coulée de boue de 2017. Et ils ont utilisé ces pierres pour construire les murs et les parements de la digue. Ça permet de créer un lien fort entre le paysage construit et l'environnement naturel. Donc au final, pour conclure, ce projet il combine des exigences fonctionnelles, esthétiques et paysagères. Et puis, toutes les exigences ont été étroitement liées et étudiées en parallèle pour obtenir un projet cohérent qui a vraiment soigné chaque détail.
Ce projet répond à une catastrophe et maintenant il protège des vies, des maisons, des routes. Et je me demandais, est-ce que tu as défini les qualités de ce projet, donc l'interdisciplinarité, mais aussi la beauté, les liens entre le paysage et les ouvrages d'art. Et je me demandais, est-ce que cette culture du bâti permet à la population de transformer et notre rapport au risque, en fait, parce qu'on est dans un territoire où il y a des risques et on va dans un environnement où les risques naturels sont de plus en plus importants. Et est-ce que une bonne culture du bâti permet de vivre de manière, d'accepter peut-être le risque de manière d'accepter plus facilement le risque, les risques naturels, quoi.
Je pense que c'est aussi en écho à ce qu'on a dit pour la forêt urbaine, dans le sens que ce projet, c'est donc aussi une réponse à un risque danger naturel accru. Donc effectivement, vraisemblablement, les ouvrages qui étaient là auparavant étaient sous-dimensionnés, ce qui a mené à une catastrophe. Et puis, c'est essentiel que quand on construit aujourd'hui, on tienne compte de ces risques-là et qu'on ne construise pas d'une façon qui augmente le risque, en fait, parce que c'est ce qui peut arriver, par exemple, plutôt dans des milieux urbains, quand on imperméabilise trop, on peut augmenter le risque de crue par ruissellement, ou bien là, dans ce cas très montagneux, dans ce contexte alpin, en fait, si on empêche, si on ne donne pas assez d'espace pour l'eau ou les coulées de boue de descendre, on peut aussi aggraver le risque par nos constructions. Et donc, ça semble essentiel et évident qu'il faut en tenir compte dans notre façon de construire, parce que sinon, on se place nous-mêmes en danger.
Peut-être, je trouve justement intéressant le fait d'inclure ce projet dans la shortlist fait aussi qu'on parle de ce type de projet. Je pense que ce type de projet d'infrastructure, c'est quand même encore très souvent pas vraiment des espaces de vie, c'est en dehors, et du coup, en fait, on n'en parle pas non plus. Et là, le fait que ça devient un espace de vie, presque, j'ai lu quelque part que notamment des habitants qui avaient perdu leur maison retournaient maintenant sur les lieux pour jardiner. En fait, ça devient presque, pas un mémorial, mais disons un lieu qui se remet à vivre. Peut-être qu'on a besoin aussi de ce type d'espace pour justement commencer à parler de toutes ces questions qui sont hyper difficiles et desquelles on parle encore très très peu.
Le jury s'appuie sur les critères de Davos, du système de Davos, pour juger les projets. Et est-ce que, après les avoir expérimentés, est-ce que ces critères permettent réellement de saisir la complexité des projets? Ou bien est-ce qu'ils orientent déjà implicitement une sorte de certaine vision de ce que doit être une bonne culture du bâti?
Bon, disons, moi j'ai toujours trouvé que les critères de Davos étaient aidants dans un contexte, disons, multi-acteur, et quand même c'est ce qu'on était, on avait effectivement différentes disciplines autour de la table, aidant parce qu'il oblige en quelque sorte d'argumenter et de prendre des perspectives différentes. Et c'est vrai que ta perspective d'ingénieur, elle est différente de ma perspective d'architecte, et que c'est tellement enrichissant de t'entendre, disons, de voir tout à coup ce critère, ou l'aspect de la construction exprimé par une ingénieure, c'est enrichissant, ça change peut-être aussi ma compréhension que j'avais avant sur la chose. Et donc pour moi, ce n'est pas tellement la question du poids de chacun de ces critères, mais c'est plutôt le processus d'argumentation au sein d'un groupe d'acteurs qui est rendu intéressant et aussi un peu peut-être plus objectif, plus respectueux face aux différences, à nos différences les uns des autres. Et je crois qu'il a tendance à nous amener, disons, dans un bon port. Un port, je pense, je ne sais pas si on fait, on a des fois voté, c'était toujours unanime, ce n'est pas tellement ça la question. Petit à petit, dans la construction de cet argumentaire, on se forge une opinion commune, et ça, je trouve que c'est magnifique.
Oui, et c'est peut-être presque ça qui est le plus intéressant. C'est que, comme tu le dis, on a ces 8 critères plus une lecture de différentes personnes de ces mêmes critères. On ne va pas parler de la même manière de la fonctionnalité si on est ingénieur, si on est architecte, si on est architecte paysagiste. Et donc je pense que ça a vraiment participé à enrichir et à diversifier les discussions. Et finalement, à trouver ensemble, voilà, on s'est beaucoup posé la question aussi, qu'est-ce que c'est qu'un prix de la culture du bâti ?
On a eu 183 projets soumis, et au-delà des 6 finalistes, cela représente un panorama très large, en fait, de la production du territoire en Suisse. Et j'ai envie de vous poser à tour de rôle, qu'est-ce que cette masse de projets dit de notre culture du bâti aujourd'hui ?
Donc, il n'y avait pas beaucoup de projets d'infrastructure. Hein. On a choisi le projet de Bondo, qui est un projet très réussi, mais effectivement, il n'y en avait pas non plus énormément dans la liste des 183 projets. Donc, ça revient à cette question de comment est-ce que la profession s'identifie à cette question de la culture du bâti. Donc, moi, je pense que ça aurait été intéressant de voir plus de projets d'infrastructure. Par contre, au niveau des grandes tendances, on avait quand même beaucoup de choix de projets qui mettaient en avant du réemploi, ce qui est plutôt encourageant parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est toujours bien de voir des projets qui réussissent à le mettre en œuvre. Il y avait aussi quand même bon nombre de projets qui montraient l'usage des matériaux biosourcés et géosourcés, dont on entend aussi beaucoup parler, mais à nouveau, d'avoir des exemples qui arrivent à le mettre en œuvre, je crois que c'est significatif pour la profession. Et puis encore, il y avait aussi toute une série de projets de transformation de bâtiments, soit de changement d'usage ou de juste de réaménagement de bâtiments existants. C'est aussi intéressant d'avoir ces bons projets-là qui montrent que c'est possible de changer l'usage d'un bâtiment, de le passer de bureau à logement, de faire tomber les cloisons et puis de changer l'usage, quoi.
Oui, donc je pense qu'on a cherché aussi à mettre en avant dans ce prix, c'est vraiment c'est trouver des réponses innovantes, nouvelles, à toutes les questions auxquelles on fait face. Et, ces questions, elles sont nombreuses. Donc je pense d'une part, ça donne quand même... c'est très positif, parce que finalement, on voit qu'il y a effectivement énormément de réponses à ces questions, énormément d'équipes très engagées aussi, qui ont produit tous ces projets, parce que c'est quand même très impressionnant quand on les voit vraiment mis ensemble. Après, je pense aussi peut-être une des choses qui manquait encore un peu, ou que personnellement j'aurais voulu voir plus, mais peut-être qui est plus difficile à rendre visible dans ce type de démarche, il faut résumer un projet, un processus à une entrée de projet. L'accent sur le processus, sur l'inclusivité des processus, des questions de participation, qui effectivement sont parfois résumés en une phrase. Donc, vu que c'est quelque chose qui est moins identifiable dans le résultat final, à travers des photos, des plans, je trouvais plus difficile d'évaluer aussi. Je pense que là, il faudrait aller sur place, il faudrait assister au processus, ce qui est évidemment est impossible dans un prix comme celui-ci.
Ouais. Puis moi, peut-être effectivement un peu en conclusion, ce qui est impressionnant, c'est à quel point ces projets, finalement, nous donnent une photo de l'actualité en Suisse et qui est quand même très, très réjouissante. Et ce qui continue à me fasciner, c'est à quel point il y a un savoir-faire qui existe, aussi un savoir-faire artisanal, la connaissance des matériaux, la manière dont on les travaille. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de beau et à préserver à tout prix. Enfin, on sait à quel point, la construction est nivelante, standardisante. Donc, tout ce qu'on a vu dans ces projets, extrêmement réjouissant. Et puis, peut-être, je le redis encore, ce qui me plairait de retrouver davantage dans la prochaine édition, dans les prochaines éditions, c'est effectivement la question vraiment urbaine, avec peut-être des projets plus grands qui parlent d'urbanité, qui se réjouissent de l'urbanité dans laquelle la Suisse entre malgré elle, et pour parler de cette Suisse d'aujourd'hui déjà et de demain, qui est assurément plus urbaine que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui.